Eh bien, comme à l'accoutumée, vous avez reconnu la suite en sol de Jean-Philippe Rameau. C'est notre générique de début pour notre émission. Bonjour à toutes et à tous. Il est 17h. Nous sommes le mercredi 9 septembre 2026. Nous nous retrouvons en direct. 1h30 de partage de livres. La saison 2026-2027 est parti pour Au fil des pages sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Aujourd'hui, Frédéric, Dominique, Francis et notre invité, Alexis Lager, secrétaire de la Société des études camusiennes, pour nous parler du livre « Écrit libertaire 1948-1960 » d'Albert Camus, réédité aux belles lettres. C'est tout frais. En plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Alors vous avez compris, le temps fort, c'est bien Camus et chez les libertaires. Mais avant et après c'est l'interview qui sera à 17h30, eh bien nous avons une série de livres qui nous ont amusés, intéressés. Et la première partie, pour alimenter le débat. Ce sont des livres là qu'on a sélectionnés qui portent sur la biographie ou l'autobiographie d'auteur. Premier livre, un livre sur la vie d'un auteur happé par son héros. Ah, ça vous donne peut-être une indication. Il est de ces personnages de fiction qui effacent leurs auteurs. Il en est ainsi de Sherlock Holmes, eh oui, dont l'intégrale des aventures a été rééditée en 2 tomes dans la collection La Pléiade l'an passé. Chacun pourra y goûter le style de Conan Doyle grâce à une nouvelle traduction. Mais justement, intéressons-nous à l'auteur, Sir Arthur Conan Doyle. Les belles lettres rééditées, son autobiographie, Ma vie aventureuse, traduite par Louis Labat. Comme le relève François Rivière dans sa préface, Conan Doyle, je cite, dut lui-même se rendre compte de l'embarrassante nature de sa progéniture et de l'impasse stylistique dans laquelle son héros imbattable et donc invraisemblable au regard des lois élémentaires de la psychologie littéraire l'avait acculé. Fin de citation. Eh oui, c'est ça le problème. Hein. Il le fit d'ailleurs mourir aux chutes de Reichenbach. Et devant la vague de protestation, Sherlock réapparaîtra, car on ne tue pas si facilement Holmes et accessoirement une si belle poule aux œufs d'or. Par son autobiographie, Conan Doyle souhaite nous révéler ses autres centres d'intérêt littéraire. Et nous avons là un style synthétique, un naturel modeste. L'auteur cherche le travail bien fait. Le style est vif, élégant, non dénué d'humour. Au cours de mes 10 premières années, je me passionnais très vite pour la lecture. Il écrivit même un livre à cet âge, La rencontre d'un tigre et d'un chasseur. Pendant ses études chez les jésuites, il se découvrit quelques petites dispositions littéraires. Modeste, vous ai-je dit. Il s'essaye à publier dans des différents journaux des nouvelles rémunérées pour sa plus grande joie. Intéressant de lire la réflexion d'un auteur célébrissime sur ses débuts, ses doutes et ses difficultés. Oui, c'est à ce côté modeste, mais intéressant, voir comment il procède. Le livre comporte aussi de nombreux passages quant aux aventures de Conan Doyle comme médecin. Tel son séjour sur un baleinier en Arctique avec des scènes de chasse au phoque et à la baleine. Le tout avec une narration particulièrement vivante. Son approche de l'Afrique traduit bien le mépris de l'époque à l'égard des populations. Ce côté-là est un côté sombre, triste, je trouve, mais qui démontre bien comment l'homme blanc se comportait. Soulignons aussi la qualité de ses romans historiques s'appuyant sur des recherches approfondies. C'était là son véritable centre d'intérêt. Et nous arrivons au début de Sherlock Holmes, avec l'étude en rouge, le signe des quatre, célébrissime. L'envolée du héros est en route. En parallèle, il s'intéresse, Conan Doyle, au spiritisme et publie des romans de science-fiction comme Le Monde perdu. Vous avez peut-être vu d'ailleurs des films qui reprennent ce roman. La difficulté dans la vie littéraire de Conan Doyle est de vivre avec son personnage. Je cite encore. « Je compris le danger de me laisser contraindre au point qu'on ne vit plus dans mon œuvre que ce qui m'en paraissait le moins relevé. Et pour bien marquer ma volonté, je pris le parti d'en finir avec mon héros. » Ah, c'est la fin de citation. C'est la scène des chutes dont j'ai parlé précédemment. Le détective ressortira dans des pièces de théâtre comme La bande mouchetée. Ah oui, ça, c'est une pièce assez intéressante. Et c'est sans doute le passage le plus intéressant sur le plan de l'écriture. Mais comme c'est une vie aventureuse, n'en restons pas là. Conan Doyle voyage beaucoup en Suisse, en Égypte, s'engage dans la guerre des Boers en Afrique du Sud. Ses aventures le conduisent même en politique, où il ne brilla pas particulièrement, il le reconnaîtra. Et aujourd'hui, les passionnés de Sherlock Holmes se retrouvent au 221B Baker Street, comme moi d'ailleurs. Sir Arthur Conan Doyle, Ma vie aventureuse, aux éditions Les Belles Lettres, en 2026. Tenez, écoutons une petite pièce de Mendelssohn. Allons-y. Eh bien, un autre livre, une biographie, une promenade. Là, je vous propose une promenade avec Robert Walser. Voilà un auteur bien, bien énigmatique. Admiré par Hermann Hesse, Franz Kafka, Thomas Mann, Robert Musil. Robert Walser, écrivain suisse, tombe dans l'oubli après sa mort. Je vous dirai quand. 30 ans après, il est considéré comme l'un des plus grands écrivains de langue allemande du XXe siècle. Qui le connaît? Qui a lu certains de ses ouvrages? Une production prolifique et dans des genres très variés. Walser entend conserver sa part de mystère. Il fait dire d'ailleurs à l'un de ses personnages, je cite, « Personne n'est autorisé à se comporter avec moi comme s'il me connaissait ». Fin de citation. Isabelle Lemarie relève le défi dans une récente biographie intitulée « Robert Walser, l'insaisissable ». Avec l'auteur, commençons par nous promener dans la ville natale de Robert, Bienne, dans le canton de Berne, pour nous imprégner de l'atmosphère. Je cite « Ce n'est qu'à pied que l'on peut véritablement saisir le génie intime des lieux. Walser, promeneur invétéré, le comprit sans doute mieux que nul autre de ses contemporains et l'un de ses textes les plus célèbres s'intitule justement « La promenade ». Fin de citation. L'ensemble des livres de Walser, vous pouvez les retrouver, hein, c'est assez facile, ils sont régulièrement réédités. Suisse, il est suisse, d'un pays au cœur de l'Europe géographique, il entend, je cite encore, « rester paisiblement soi-même ». Il rejeta tout nationalisme en se définissant comme « européen », ainsi que les idéologies en général, les poncifs et la sensiblerie de son époque, et demeura rétif à toute contrainte extérieure. Stefan Zweig écrit à son sujet « C'est un original du genre le plus profond et le plus étrange, dont l'originalité s'exprime de façon inoubliable dans chacune des lignes, chacun des paragraphes qu'il écrit. Un personnage complexe, qui entend rester pauvre pour rester libre. Intéressant comme approche. Alors comment le découvrir? Eh bien, Isabelle Lemarie nous le révèle par ses livres, ses poésies, ses articles, ses lettres. Vous voyez la diversité. Livres, poésies, articles, lettres. Comment écrit-il? Je cite. « Quand je suis bien luné, c'est-à-dire de bonne humeur, je taille, je couds, forge, rabote, cloue et assemble des phrases dont on comprend tout de suite le contenu. Son laboratoire de mots, eh oui, intéressant dans une émission comme la nôtre. J'ajoute que cette biographie est une passionnante invitation à la lecture de l'œuvre de Walser. Deux approches dans cette découverte, soit la vie de Walser, soit un tâtonnement au gré des ouvrages du poète. Il voyagera peu, restant dans cette Europe centrale. Il refuse toute influence, même s'il est un grand lecteur, et entend écrire comme si, je cite, « sa création était une parade contre la mort et peut-être ses problèmes mentaux, vous verrez. » Un passionné de l'écriture. Je cite encore. « D'une façon générale, je crois que l'écrivain ou le serviteur de l'écriture » qui écrit avec le plus de sûreté et le moins de souci, est celui qui le fait avec joie. Alors, on parlait des problèmes mentaux. Alors, sa famille est marquée. Sa mère, dure et dépressive, va peser sur sa mentalité. Son père et ses frères et sœurs sont des romans. Vous lirez tout ça. Nous le retrouvons à Stuttgart, passionné de théâtre, d'art, à Zurich, un temps séduit par le socialisme. Il publie pour la première fois en 1898 quelques poèmes dans Der Bund. À Berlin, il se lance dans le roman avec un livre, Les enfants Tanner, à mettre en lien avec Buddenbrook de Thomas Mann. Son pays lui manque, alors il rentre à Vienne. Un côté du Bellet dans ses lettres, vous lirez. Il vit de peu, ouais, il se contente de peu, dans une mansarde, il écrit, marche beaucoup, il tirera de cette pratique le livre « La promenade » dont j'ai parlé un petit peu plus haut, qui rappelle les ouvrages d'Henri-David Thoreau. notamment celui de bouquin de Thoreau, De la Marche, paru aux éditions Mille et une nuits en 2020. C'est une réédition. Il parcourt des distances qui impressionnent Isabelle Lemarié, mettant en doute sa capacité à réaliser une marche de 120 km en 3 jours, soit 40 km par jour. Il faut savoir que l'endurance des personnes à cette époque était plus importante qu'aujourd'hui. Mais il est possible de réaliser cette marche encore aujourd'hui. Et je vous garantis qu'on est épuisé à l'arrivée, comme il l'écrit, mais on peut le faire. Alors, ces troubles du comportement sont manifestes à partir de 1924, avec des difficultés pour écrire. Une paralysie de la main le conduit à passer de la plume au crayon. C'est terrible pour un écrivain, ne plus pouvoir écrire. Il est interné en 1929. Des moments de désespoir. Je cite encore, « Tous les livres déjà avaient été écrits. Déjà, tous les grands actes semblaient accomplis. » À rapprocher évidemment du vers de Mallarmé, « La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. » Il ne sortira plus de l'univers psychiatrique, 25 ans durant. Il meurt à 78 ans, un 25 décembre 1956, lors d'une promenade dans la neige, seul, on lui avait permis de sortir. Et je cite encore Walser. « Il me sied de disparaître aussi discrètement que possible. » Eh oui, aussi discrètement que possible, on retrouvera son corps. Peut-on parler de poète maudit ? Bah, à vous de lire l'ouvrage que je conseille vraiment. Isabelle Lemarié, Robert Walser, L'insaisissable, aux éditions Le Canoë Exil en 2026. Et quelqu'un qui aimait beaucoup la montagne, etc., ben, écoutons Franz Liszt, Au bord d'une source, interprété par Martin Hemsham. Par les lettres, les personnes se révèlent. C'est une forme d'autobiographie. Écoutons Dominique nous présenter la correspondance entre George Sand et Marie Dagout. Et vous comprenez pourquoi j'ai choisi Franz Liszt dans cette demi-heure, ainsi que Chopin, ce qui suivra l'intervention de Dominique, qui nous présente Marie Dagout donc, et George Sand, correspondance aux éditions Barthillard en 2026. Et Dominique me fait dire qu'il faut signaler qu'elle a écrit, que George Sand écrivait beaucoup à de nombreuses personnes, surtout quand elle était là-bas à Nohant. Les soirées, ça devait être, et les nuits, puisqu'elle écrivait beaucoup la nuit, ça devait être un peu tristounet. Et ses enfants, ses amants, des hommes politiques, des écrivains, des artistes, et on peut trouver cette masse de correspondances dans Correspondance de George Sand aux éditions Les Classiques Garnier, est une édition qui a été établi par Georges Lubin, et puis vous avez le site officiel de George Sand. Donc là, écoutons Dominique nous présenter cette correspondance, et ensuite nous aurons un morceau de Chopin. Le petit chien, allons-y.
Je vais vous présenter aujourd'hui la correspondance entre Marie Dagout et George Sand, publiée chez Barthillard en 2026.
Alors, qui a réuni cette correspondance ?
Alors, il faut saluer le travail de Charles Dupéché. C'est un éditeur. Il a notamment dirigé les éditions de la BNF et les éditions Pygmalion. Auteur de romans publiés chez Grasset, spécialiste du 19e siècle, il a publié la correspondance générale de Marie Dagout chez Honoré Champion, 16 volumes. Ouais. Il a également publié, à noter, les mémoires, souvenirs et journaux de Marie Dagout, son roman Nélida et cette correspondance donc avec George Sand. Pour cette correspondance, il a rassemblé les lettres, les a datées, annotées et contextualisées. Les notes en bastache sont très précieuses pour expliquer qui sont les personnages cités. Par exemple, il y avait Poussy, un élève de Liszt, les héroïnes de Sand, comme Lélia, on ne s'en souvient pas forcément.
Non.
Même chose, l'amener, j'ai été vérifié, bien sûr qu'on savait que c'était un prêtre social, mais c'est bien de rappeler quand même qui étaient ces personnes. Et surtout, il met en valeur les tensions entre les deux femmes qui ne sont pas immédiatement visibles.
Alors, George Sand, c'est une habituée des correspondances féminines.
Oui, c'est une référence dans ce domaine. Les correspondantes qui s'adressent à Sand appartiennent à des milieux différents, des femmes ordinaires, simples admiratrices, des femmes qui veulent écrire et cherchent en George Sand un conseiller littéraire. Un autre groupe rassemble des militantes politiques, des Saint-Simoniennes, comme Pauline Roland, socialistes, comme Florent Tristan, ou féministes, comme Eugénie Niboyer. Enfin, des femmes artistes et des femmes de lettres que George Sand a aimées, aidées ou simplement croisées et fréquentées, comme Marie Dorval,
oui,
Hortense Allard, Juliette Adam et Marie Dagout.
Alors, les deux femmes, là, Marie Dagout et George Sand, ont des vies similaires.
Oui, alors, il y a quelques vies similitudes, mais on verra aussi quelques différences. Alors, Marie est née en 1805, George en 1804. Elles ont tous deux 30 ans quand elles se rencontrent. Elles aiment les prénoms masculins. Marie se nommera plus tard Daniel Stern, comme George Sand aussi a pris un prénom. Oui. Elles commencent à s'écrire en 1835, au moment où elles sont en train de rompre avec leur existence passée et de quitter leur mari. Bon, néanmoins, on sent que la rupture est plus difficile pour George Sand, qui va se battre dans de multiples procès contre son mari pour récupérer ses biens et son autonomie financière. Elle en parle souvent dans sa correspondance.
Oui.
Marie vit le scandale d'avoir quitté le milieu aristocratique pour suivre un musicien, Liszt. Elle a perdu une fille qui est décédée et a laissé l'autre à son mari. Marie est plus à l'aise financièrement, elle voyage énormément alors que George est entre Paris et Nohant. George est en pleine ascension littéraire alors que Marie se cherche.
Et Franz Liszt est important dans cette relation épistolaire.
Oui, Marie Dagout et George Sand se rencontrent par l'intermédiaire de Franz Liszt, qui est alors l'ami de George et l'amant de Marie. Liszt sera au départ celui qui pousse Marie à aimer George. Pourquoi, il dit, pourquoi donc voulait-elle s'aimer ? Parce que Liszt le voulait, dit George. Marie lui répond, j'aime France, c'est une portion de mon propre sang, il m'a dit de vous aimer. Liszt restera entre elles un trait d'union, mais aussi plus tard de désunion. C'est la figure masculine idéale, amant de l'une, double mythique de l'autre. Il est sans doute source d'une rivalité souterraine entre les deux femmes qui finira par s'exprimer au grand jour.
Et il y a comme une admiration, une fascination réciproque entre Georges et Marie au début de leur correspondance.
Oui, alors Sand admire la beauté de la belle comtesse aux cheveux blonds, aux yeux bleus bien calmes, aux expressions célestes. Elle y voit même la figure de la princesse fantastique, l'artiste, la noble de langage comme les filles de roi. Marie appelle Georges mignonne et admire son talent littéraire, sa liberté, sa force d'âme. Elle parle d'amour durable comme un diamant. Elle se donne des surnoms pour Sand, Pifoel ou mignonne, pour Dagou, Fellow ou princesse. Et pour Litz, alors Georges Sand l'appelle tantôt Fellow ou crétin. Elles voyagent ensemble et même cohabitent un certain temps. Elle se dresse des autoportraits sans concession. Marie dit par exemple « J'ai le malheur d'être une aristocrate ». Georges Sand refuse le statut de femme auteur et accentue son côté masculin, se peignant tour à tour en gamin impertinent, voyageur bouffon ou encore en vieillard moraliste. Elle dit « Vous me croyez d'une haute intelligence, je n'en ai aucune, je n'ai que de bons instincts ». Et Marie répond « Je veux voir Nohan, je veux vivre de votre vie, me faire l'amie de vos chiens, la bienfaitrice de vos poules, je veux me chauffer de votre bois, manger de vos perdrix et raviver ma pauvre machine amaigrie et ébranlée à l'air que vous respirez ». Sans vous en douter et sans que je m'en doute moi-même, vous avez guéri mon esprit d'une langueur que je croyais incurable.
On peut souligner d'ailleurs l'intérêt d'aller visiter la maison de Georges Sand à Nohant.
Ah, ah oui.
C'est quand même assez étonnant qu'on retrouve bien l'esprit de Georges Sand. Alors, ce sont des femmes libres toutes les deux ?
Oui, alors ce sont des femmes libres qui choisissent leurs amants, surtout Georges. Le nombre est impressionnant. Pour Georges, elle a eu des liaisons amoureuses avec le romancier Jules. Je ne vais même pas donner toutes les dates parce que Jules Sandeau, un prince Norbert Pranowski, l'écrivain Prosper Mérimée, je ne savais pas. Bien sûr, Alfred de Musset, ça tout le monde le sait. Louis Christosome Michel, le comédien Pierre-François Bocage, l'écrivain Charles Didier, Maïfil Chopin. Bon. Et la liste n'est même pas terminée. Marie est plus sage. Sa liberté s'exprime surtout par son nomadisme et ses voyages, car elle accompagne Liszt dans toute l'Europe. Georges et Marie voyageront d'ailleurs ensemble dans les Alpes, dans une excursion de 15 jours à Dautmulé, et elles vont visiter différents lieux, Genève, Chamonix, le glacier des Bossons, Martigny, Fribourg, la cathédrale Saint-Nicolas, aux orgues réputées, la mer de glace.
C'est une amitié littéraire.
Oui, leurs lettres sont le prolongement de leurs œuvres passées ou en devenir. On discute du style, du rôle de la femme en littérature, de la vérité dans l'écriture. Sand pousse Marie à écrire. Écrivez vite avant d'avoir pensé beaucoup, car quand vous aurez réfléchi à tout, vous n'aurez plus de goût à rien. Vous écrire par habitude, je vous prédis un grand succès. Écrivez sur le sort et les droits des femmes, comme Madame Allard. C'était la maîtresse de Chateaubriand qui revendiqua le droit d'avoir des amants. Bon, Georges se brouilla par la suite pour pédantisme. Le salon de la comtesse d'Agoult est fréquenté par des écrivains, des penseurs, des musiciens, des politiques. Lamennais, c'est là qu'elle parle de Lamennais. Heine, Mickiewicz, Michel de Bourges, Charles Didier, Eugène Sue, Berlioz. Bon, Sand fréquentait Balzac et Flaubert. Un jeu de rôle se dessine. Marie sera la muse de Georges. Si toutefois, se demande celle-ci, je puis me permettre d'avoir une muse.
Et en politique ?
Alors, elles sont républicaines toutes les deux. Georges Sand cite Lamennais, Pierre Leroux, Louis Blanc, Victor Schœlcher. Mais Georges Sand va plus loin. Elle aime les systèmes comme Saint-Simon et Fourier. Alors, elle discute aussi religion. Mais Marie préfère les sciences naturelles et la nature. Sand est très engagée du côté républicain social, proche du peuple. Dagoult adopte une position plus modérée, plus élitiste.
Alors, le traité, il y a un moment, une question de traité, là.
Oui, alors, elle se rédige un traité toutes les deux, qu'elle signe.
Oui. C'est un moment de l'humour.
Oui, oui. Alors, un traité d'alliance offensive et défensive est scellé. Alors, on sent un peu la patte de Musset. Article 1. Il a été reconnu que Georges Sand est un enfant indiscipliné, taquin, mutin, hargneux, sournois, auquel il sera donné force, férule et pensum pour lui apprendre à parler et écrire correctement. Article 2. Que Marie, 3 étoiles, est un diamant, un signe, un luth, et généralement tout ce qui constitue la créature idéale que l'on ne saurait trop louer, chanter, vanter, encenser, en prose et en vers, dans toutes les langues connues depuis le sanskrit jusqu'au bas breton.
Et puis alors après,
c'est la brouille.
C'est la brouille, hein, oui. Voilà, c'est ça.
Alors Marie part pour l'Italie, ça va se dégrader. Alors il y a des problèmes de transport pour le courrier, ça va créer des malentendus. Dagoût va faire des commentaires sur la vie privée et professionnelle de Sand, et Sand de son côté va faire un portrait peu flatteur du couple Dagoût-Litz à Balzac, qui va s'en inspirer pour son roman Béatrix. Quiproquo, dialogue de sourds, cancan, coup de poignard, elles ne se reconnaissent plus. Marie juge le mode de vie de Sand trop libre et condamne son nombre d'amants. Georges Sand est blessé car sa vie et son œuvre sont liées. Juger son mode de vie, c'est donc juger son œuvre. Les lettres adoptent un ton formel et s'espacent. Marie écrit « Je suis absolument décidée à rompre toute relation amicale avec cette personne désagréable, ingrate et fausse. » Selon l'analyse de Sand, la cause première de leur amitié, c'est l'éternelle rivalité féminine, larvée, étouffée. Marie est trop cantonnée à un rôle de muse avec Litz et Georges, elle en souffre. Marie encore, je n'aime point Spiridion. La prétention de Georges à la philosophie est absurde. On voit clairement sous la belle phrase l'ignorance totale ce dont elle parle. Je crains que ne voulant absolument pas travailler sérieusement et se contentant de se faire successivement l'écho de tout ce qui l'approche, elle ne gâche une bien belle destinée d'écrivain.
Et puis la guerre va aller après la correspondance, oui. Parce qu'ils vont rompre leur correspondance, oui, oui. Mais ça va continuer.
Oui. Une guerre de plumes plus offensive va se déclarer. Georges va descendre le roman Horace de Marie en janvier 1841. Marie, qui s'essaie à la critique littéraire dans la presse, éreinte le compagnon du Tour de France, qui marque selon elle le déclin définitif de l'écrivain. Bon, Marie écrira plus tard son Histoire de la Révolution de 1848 avec une vision plus inquiète face au peuple et s'éloignera des idées politiques de Georges. Et alors, la symétrie est presque parfaite. Elles vont décéder toutes les deux en 1876, à 3 mois d'intervalle.
Ah oui, oui, oui. Parfaite, si je puis dire, symétrie. Oui. Bon, on rappelle quand même que les idées de politique de Georges, qui se prétendait d'inspiration socialiste en 1848, oui. Elle s'en est largement éloignée en 1871, puisqu'elle a fait partie, oui, de tous ces auteurs qui étaient opposés à la Commune de,
oui,
Paris.
Oui. Hein,
très bien. Merci. Eh bien, deuxième partie de notre émission, dialogue avec Alexis Lager. C'est un grand plaisir d'accueillir Alexis Lager qui va nous présenter le livre Écrit libertaire de Camus qui a été réédité aux éditions Les Belles Lettres. Et dans la foulée, je vous propose Alas Barricadas pour Camus l'Espagnol, vous comprendrez pourquoi, et pour annoncer aussi le livre qui sera présenté par Fred dans la foulée. Allons-y avec Alexis.
Bien. Donc, Alexis Lager, vous êtes secrétaire de la Société des études camusiennes et vous préfacez la réédition par les belles lettres du livre Écrits libertaires, 1948-1960, les écrits donc d'Albert Camus, mais nous y retrouvons aussi d'autres plumes comme René Char, Gaston Leval, Maurice Joyeux. Mais et avant d'aborder le livre, pouvez-vous nous présenter en quelques mots la Société des études camusiennes?
Merci Francis déjà pour votre invitation. Voilà, je suis vraiment très content que la première sollicitation autour de cette réédition soit pour Radio Libertaire. C'est vraiment un signe de l'intérêt des libertaires voilà, pour Camus, un intérêt constant. Alors la Société des études camusiennes est une association qui va réunir des amateurs et des lecteurs de Camus. Elle compte de nombreux adhérents dans 24 pays. Le Japon, les États-Unis et aussi l'Amérique latine ont des sections autonomes au sein de cette association. L'objectif principal de la société, c'est vraiment de participer à la connaissance de la vie, de la pensée et de l'œuvre de Camus. Donc l'association publie une revue annuelle, Présence d'Albert Camus, mais aussi un bulletin électronique deux fois dans l'année, hein, semestriel, qui s'appelle Chronique Camusienne. Elle organise cette association des rencontres, des manifestations, des colloques, des journées d'études et également soutient des publications en lien avec Camus.
On avait, pour préparer l'émission, on a notamment abordé une journée que vous aviez animée à Chambon-sur-Lignon.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, on a organisé voilà, deux journées, enfin un week-end autour de la présence de Camus au Chambon-sur-Lignon. On a vraiment étudié voilà, la vie de Camus au Chambon, hein, où il s'est retiré pour soigner sa tuberculose, et
Oui.
puis également toutes les conséquences que ça a pu avoir sur son œuvre et sur son engagement dans la résistance.
Et oui, et un livre a été publié chez Bleu Autour, dont j'en avais fait état sur le site du Monde Libertaire. Et la revue que vous éditez, elle est éditée par l'intermédiaire d'une maison d'édition ou bien c'est vous en propre?
Alors, c'est nous en propre. Voilà. Dès qu'on adhère finalement à la Société des études camusiennes, eh ben, à l'automne, on reçoit voilà, cette revue Présence d'Albert Camus, qui en fait à la fois donne lieu à des comptes rendus hein, de certains ouvrages autour de Camus, mais également à des articles, pas toujours universitaires, voilà, des articles en lien avec la pensée de Camus, mettre en relation aussi Camus avec d'autres penseurs. Voilà, c'est une revue assez ouverte. On a aussi parfois des documents un peu inédits, des rééditions de certains articles que l'on ne trouve nulle part. Donc il y a tout un travail de recherche aussi, par le biais de la revue.
Alors, je mentionnais en introduction la réédition de l'ouvrage. Qui est à l'origine du livre au départ? C'est une compilation de textes et quels sont les éditeurs successifs?
Alors, on doit ce volume, Les Écrits libertaires, à Lou Marin, qui est le nom de plume libertaire d'un historien et un militant antinucléaire allemand, en référence à Lourmarin, le village où
Oui.
Camus a acheté sa maison à la fin de sa vie, où il est enterré aujourd'hui. Et donc, ce militant, cet historien, au début des années 2000, va travailler à rassembler l'intégralité des textes qui ont été écrits par Camus pour les revues et les journaux libertaires. J'aimerais vraiment rendre hommage ici à son incroyable travail, très minutieux, voilà, une connaissance extrême du milieu intellectuel d'où émergent ces textes. À la fin, on va dire, il travaille aussi, Lou Marin, avec le CIRA hein, de Marseille, le Centre international des recherches sur l'anarchisme. On va dire au début des années 2000, il va regrouper tous ces textes qui vont être publiés pour la première fois en 2008 sous le titre Albert Camus et les libertaires, donc le titre va changer, aux éditions marseillaises Égrégore. Il a vraiment le soutien de Catherine Camus qui tient à mettre en avant hein, cet aspect un peu minimisé de la pensée de Camus, de son père. Le livre va connaître des rééditions en 2013 pour le centenaire d'Albert Camus, de la naissance d'Albert Camus. Il va être réédité aux éditions toujours Égrégore, mais en partenariat avec Indigène Éditions. Et en 2026, c'est-à-dire aujourd'hui. Il est réédité sous les belles lettres dans la collection de Jean-Claude Zilberstein, Le goût des idées. Et vraiment, cette réédition, elle est aussi souhaitée activement par Elisabeth Maisonlieu Camus et Catherine Camus, hein, donc la petite fille d'Albert Camus et sa fille. Activement souhaitée, et puis je pense que vraiment le fait de rentrer dans une collection poche, ça permet d'ouvrir l'ouvrage à un plus large public, c'est ça aussi la volonté.
Oui, tout à fait. Alors, ces textes sont issus de revues, d'ouvrages, de discours. On peut citer quelques revues comme ça ?
Alors, bien sûr, je dirais que l'ouvrage est vraiment construit en quatre pôles. Il y a tout d'abord tous les textes que Camus a donnés pour les publications de Louis Lecoing, Défense de l'homme, Liberté et Contre-courant. On va retrouver pas mal de textes autour de cette revue Liberté. Il y a également de nombreux textes et échanges qui sont publiés dans Le Libertaire et Le Monde Libertaire. Ouais. Le troisième pôle, ça serait plutôt le pôle Témoin, qui est une revue suisse antimilitariste, liée vraiment à Jean-Paul Samson. Et le dernier pôle, c'est la Révolution prolétarienne.
Oui. Voilà.
Dans l'ouvrage, les textes de Camus sont très variés. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des entretiens, la retranscription de certains discours, de préfaces, des causeries, des appels publics. Camus, finalement, il donne aussi parfois des textes que l'on va retrouver ensuite dans Actuel. Donc c'est ses recueils journalistiques qu'il va publier en trois tomes. Ensuite. Donc, on voit très bien que ces textes ont une importance pour lui, hein, puisqu'elles sont ensuite replacées dans le contexte de l'œuvre littéraire et politique.
Tout à fait. Alors, Camus, alors, serait-il libertaire? Parce que vous évoquez la profonde fraternité intellectuelle et l'affinité politique réciproque entre Camus et les libertaires, je vous cite là.
Alors oui, c'est vrai que c'est une question qui mérite vraiment d'être posée. Alors j'aimerais déjà donner peut-être deux formules de chercheurs autour de l'anarchisme. Il y a déjà la formule de Fabrice Magnon qui parle de Camus comme d'un compagnon de doute des libertaires. J'aime beaucoup cette belle formule, qui s'oppose à compagnon de route, pour montrer que voilà, ils ont un chemin de doute commun. Et puis il y a une formule de Philippe Pelletier. Hein, qui a travaillé aussi beaucoup sur l'anarchiste, qui parle d'un anarchiste dans l'anarchisme. Je trouve ça aussi très beau.
C'est un de nos amis, Philippe Pelletier, donc je connais bien, oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, dans un ouvrage qu'il a consacré aux figures de l'anarchisme, il utilise cette étiquette, un anarchiste dans l'anarchisme. Alors, c'est vrai que pour moi, Camus, ce serait un peu un libertaire hétérodoxe, quoi. Un libertaire libre, voilà, c'est une formule que j'utilise dans la préface. Il n'a jamais vraiment été membre de la Fédération anarchiste, mais il est très proche, sur le plan intellectuel et politique, des libertaires, par son refus de l'autoritarisme de l'État, par l'idée que la liberté et l'égalité sont un couple indissociable, par son refus du nationalisme et par son internationalisme également. C'est vrai que dès 1951, il va expliquer qu'il n'est pas réellement socialiste, alors au sens de social-démocrate, mais que sa sympathie va, et là je le cite, aux formes libertaires du syndicalisme. Donc il se définit très clairement comme un sympathisant, ce qui lui permet de garder toute son autonomie, son indépendance critique, sa liberté de penser. Camus est quelqu'un qui refuse les chapelles, qui se considère comme un esprit libre. C'est sans doute sa force et sa faiblesse aussi, puisque ça explique pourquoi Camus, à mon avis, actuellement, est parfois récupéré par tous les échiquiers politiques. Voilà, c'est cette indépendance-là. Ce qui est aussi le cas, par exemple, pour George Orwell. On va dire qu'il va avoir une initiation aux pensées libertaires avant-guerre, mais que la proximité réelle va se faire pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il va rencontrer Rirette Maître-Jean, pendant la débâcle et l'exode. Et cette rencontre va lui permettre aussi d'être en contact avec les correcteurs et les typographes anarchistes qui s'occupent des journaux. Très progressivement, il va tisser des affinités avec des figures du milieu libertaire comme Maurice Joyeux, Georges Fontenis, Pierre Monat, Nicolas Lazarevitch. Et donc, il peut lui arriver d'avoir des prises de décision qui soient différentes des libertaires, des points de vue différents. Hein. Il y a beaucoup de débats entre eux. Par exemple, c'est le cas en 1955. Il fait le choix, Camus, de soutenir le Front républicain de Mendès France. Et dans l'Express, hein, où du coup il publie à ce moment-là, il va expliquer son vote et il explique pourquoi il ne peut pas s'abstenir à titre individuel comme vont le faire les libertaires. Mais il ne manque pas dans son article de vraiment rendre hommage à cette abstention souhaitée par les libertaires et de mettre en avant son estime pour cette décision libertaire. Donc c'est vrai que c'est intéressant, hein, c'est un compagnon de doute qui chemine avec eux, mais qui manifeste aussi son indépendance quand il le souhaite. Mais qui sera toujours fidèle
Un peu comme Brassens.
Exactement.
Il répondra toujours présent en cas de... Oui. Et puis alors, il y a chez Camus cette notion de liberté, on vient de l'évoquer, et elle vient d'où cette notion de liberté, de son enfance ?
Alors, de son enfance, c'est vraiment une valeur essentielle, je pense, chez Camus, hein, une valeur socle. C'est vrai que pendant l'enfance, les jeux, la liberté aussi offerte par la nature algérienne, par le cadre algérien dans lequel il vit, le football, hein, donc la camaraderie, tout ça va faire en sorte que ça va modeler finalement ce sentiment de liberté chez lui. Mmh. Alors, j'aime beaucoup une formule d'André Prudhomo qui dit que Camus a un sens intime de la liberté. Il va lui rendre hommage, il va rendre hommage à ce sentiment, à ce sens, au moment de sa mort. Hein. Il suffit, par exemple, de lire des pages du Premier Homme, hein, donc le roman inachevé de Camus, hein, qui était dans la voiture lors de son accident de voiture, pour se rendre compte, finalement, de cette liberté qu'il trouve aussi dans la nature, voilà, une liberté qu'il va essayer ensuite aussi de décrire dans des pages de noces.
Oui, noces, oui, particulièrement. Voilà. Alors, il y a aussi chez lui une sympathie envers les réfractaires, et vous citez notamment Pascal Pia, qui était directeur de l'Alger républicain. Alors, les réfractaires, Le Coin ?
Alors, bien sûr, on pourrait penser à Le Coin, mais c'est vrai que Camus a toujours une proximité avec ses révoltés, ce que je pourrais appeler les vaincus de l'histoire et de la politique aussi, hein, et d'où aussi son compagnonnage avec les républicains espagnols. Il faut savoir que Camus a été exclu en 1937 du Parti communiste algérien, hein, pour trotskisme. Hein, il va faire un passage de 2 années au Parti communiste.
Et ça l'a guéri, je pense, oui, que ça l'a bien guéri du sectarisme.
Exactement, et donc du coup, il a refusé finalement la ligne nouvelle du Parti communiste qui voulait faire passer au premier plan le front antifasciste avant la lutte locale contre le colonialisme. Et donc Camus n'est pas d'accord avec le PCF et le PCA qui vont souscrire à la dissolution de l'étoile nord-africaine qui est portée par le syndicaliste Messalit Hadj, qu'il soutient lui et ses militants. Et donc c'est vrai qu'il va tout de suite essayer de soutenir ces réfractaires qui sortent des dogmes politiques, hein. Les positions pacifistes et antimilitaristes qu'il va tenir au début de la Seconde Guerre mondiale, dans le Soir républicain, vont le conduire, lui et Pia, à l'exil parisien. Hein. Cette proximité aussi, je pense, avec les réfractaires, va demeurer tout au long de sa vie une ligne de conduite. En 1955, par exemple, il va intervenir pour soutenir l'antimilitariste Maurice Lézan dans un procès où il est accusé, hein, Maurice Lézan, d'avoir placardé une affiche anticoloniale contre la guerre en Indochine. Il va lui apporter son soutien.
Alors, on peut considérer que Camus tient un discours libertaire, notamment dans ses éditoriaux. On pense particulièrement à ceux de Combat. Il y a un titre qui est assez net, de la résistance à la révolution. C'est clair, ça. Et de quand déjà date cet édito?
Alors, cet éditorial, hein, c'est vraiment fin 44, hein, voilà, juste après la libération. Ça va être le slogan, on va dire, la ligne directrice, la ligne politique du journal Combat. Et ce qui est important, je pense, c'est de mesurer à quel point la presse gaulliste, et notamment Défense de la France, considère que Camus et que Combat est un organe anarchiste. Hein. Dans Défense de la France, certains vont dire que le goût pour l'hypercritique de Combat dégénère en sympathie pour l'anarchisme. Donc on voit à quel point finalement il y a ce fichage anarchiste du journal Combat qui va être présent. Le slogan de Combat, de la résistance à la révolution, je pense qu'elle trace vraiment une ligne de force. c'est la volonté de construire, à mon avis, à partir de la fraternité de la résistance, vraiment un projet socialiste qui conduise à une révolution sociale qui est proche, pour moi, de l'expérience espagnole, avec dénationalisation, le refus des promesses idéalistes de la social-démocratie, une véritable démocratie populaire, la volonté d'avoir le souci constant de la personne et de ses droits, et aussi une ligne économique collectiviste qui permette de retirer à l'argent son privilège. Donc Camus est ici finalement aussi très proche de George Orwell, qui en 42-43, un petit peu avant, va tenir la même ligne directrice dans son essai « Le lion et la licorne », hein, où il parle de ce socialisme démocratique. Mmh. Donc on voit que c'est aussi un courant, d'une certaine manière, qui peut être européen, voilà, donc, avec cette dimension internationaliste.
Mmh. Et ce sont des hommes isolés, c'est-à-dire que Camus n'est pas dans une organisation politique, Orwell non plus, mais ils ont une aura et ils se tiennent intellectuellement, c'est assez intéressant à voir. Et Camus s'appuie sur quel théoricien, sur quelle force militante quand il parle de socialisme libertaire ?
Alors, il y a, je pense, trois références peut-être sous-jacentes, pas toujours revendiquées explicitement, mais que l'on qu'on peut retrouver quand on lit ces éditoriaux de combat. Tout d'abord, bah, Proudhon, voilà, avec le fédéralisme proudhonien, qui cherche à équilibrer les minorités et la majorité, qui est une sorte de pluralisme. Hein. Oui. C'est une lecture capitale, notamment ensuite pour son projet pour l'Algérie. Il y a également, bien sûr, Bakounine. Camus n'est pas toujours d'accord avec lui, on le verra dans L'Homme révolté, où il va justement avoir un débat avec l'anarchiste Gaston Leval.
Oui, il y a un grand débat, il y a un grand débat avec Gaston Leval, mais toujours empreint de respect et de dignité. Il n'y a jamais l'agressivité que les temps modernes vont développer envers Camus.
Exactement. Alors c'est marrant parce que Gaston Leval a vraiment le regard d'un spécialiste, voilà, de travailler précisément sur certaines citations. Et Camus reconnaît totalement qu'il peut avoir raison parfois. Et puis en même temps, dans sa réponse, on voit à quel point il est très tolérant sur les remarques critiques que peut faire Leval. Il explique aussi ses positions et ça permet également de voir à quel point il se sent proche de la pensée libertaire. Ouais. C'est-à-dire que sa réponse montre paradoxalement toute sa proximité.
Alors,
c'est vrai que Bakounine est proche de Camus, enfin en tout cas Camus est proche de Bakounine, notamment cette formule de Bakounine dans le catéchisme révolutionnaire, la liberté de chacun n'est réalisable que dans l'égalité de tous. Oui. Ça c'est vraiment une formule qu'on retrouve de manière cryptée dans les éditoriaux de combat et qu'on va retrouver aussi dans Les Justes à travers le personnage de Stéphane. Il dit « La liberté est un bagne aussi longtemps qu'un homme est asservi sur la terre ». Donc là, on est vraiment dans cet esprit anarchiste. Et je pense que le dernier pôle vraiment théorique qui fonde cet anarchisme camusien, si on peut l'appeler comme ça, c'est vraiment l'expérience espagnole.
Oui.
Voilà, ce retour à une autogestion populaire.
La CNT.
Exactement.
CNT, le syndicalisme révolutionnaire.
Oui. Voilà. Et Camus était proche de ces gens-là, il leur a donné des textes, par l'intermédiaire de certaines revues, c'est pareil, le volume l'évoque, notamment tout à la fin. Donc c'est vraiment ces trois piliers, je pense, qui fondent ce socialisme libertaire.
Ouais.
Voilà, ce socialisme libertaire aussi, il est important de comprendre que si Camus pense qu'une révolution est nécessaire, qu'un changement de paradigme est indispensable, cette révolution, elle ne doit pas être violente. Je pense qu'il y a vraiment un attachement profond chez Camus à l'espace démocratique, au respect des droits humains. Les forces militantes sur lesquelles il compte s'appuyer pour mener à bien ce projet social libertaire, c'est vraiment les syndicats ouvriers, pour qu'ils deviennent finalement propriétaires des outils de production, en refusant le capitalisme financiarisé, mais également sur des communautés de réflexion internationalistes. Je pense notamment à sa participation au groupe de liaison internationale pendant la guerre froide, pour essayer de retisser des liens entre les différents pays et de venir en soutien aussi aux dissidents, de l'Est notamment.
Alors, il prononce un discours qui est très important. Moi, je trouve qu'il est vraiment très riche, c'est le discours de Saint-Étienne, où il livre sa conception de la liberté et du rôle de l'État. Pour lui, c'est une lutte permanente, ça.
Alors oui, c'est vraiment, je trouve à titre personnel que c'est le plus beau texte du volume, hein, restaurer la valeur de liberté.
Oui, je suis d'accord.
Donc c'est vraiment, voilà, on sent qu'il y a vraiment un souffle, une inspiration réelle et puis des formules frappantes. La liberté, c'est vrai, dans ce discours, pour Camus, elle n'est jamais acquise. C'est un processus continu de lutte. Camus ne croit pas à une société utopique, marxiste et à la fin de l'histoire, où la liberté serait donnée. Il a une conscience aiguë que chaque droit, chaque liberté doit être gagnée, mais aussi défendue. C'est-à-dire que le citoyen doit être dans un état de veille permanente. Il ne pense pas que les acquis sociaux, les acquis démocratiques, syndicaux sont éternels. N'importe quel régime politique, réactionnaire, peut très bien le mettre à mal. Et l'actualité lui donne vraiment raison. La révolte, chez lui, je pense, hein, parce que c'est de ça dont c'est les questions aussi, hein, la révolte, c'est cette insoumission de la liberté, est une veille constante, une action permanente. Toute la vie de Camus en témoigne. Chez Camus, si on veut parler plutôt du rôle de l'État, l'État doit être le garant de ce cadre démocratique, mais Camus a parfaitement conscience des tendances autoritaires de la structure étatique et bureaucratique. Il ne croit pas que les gouvernements nous protègent. Je trouve que la plus belle formule pour définir ce lien à l'État, c'est celle d'Alessandro Bressolin, hein, qui est un chercheur italien qui a beaucoup travaillé sur le fédéralisme de Camus. Il dit que Camus est fidèle à la société plutôt qu'à l'État. Voilà, donc c'est vraiment les rapports concrets entre les gens qui peuvent changer les choses.
Alors, il intervient dans quantité de réunions, dans des comités de soutien. Il ne se contente pas de faire un beau discours. Quelquefois, il appuie même financièrement quand il faut aider à la parution d'un livre ou d'un journal ou autre. Et c'est vraiment le symbole de l'intellectuel contre la diffusion des idées totalitaires, je trouve, au fur et à mesure de toutes les réunions que vous avez reprises dans le livre.
C'est vrai que Camus n'est pas un objecteur de conscience. Hein.
Oui,
il a un pacifisme ponctuel au début de la Seconde Guerre mondiale, mais qui va très rapidement se transformer. Il va rejoindre la résistance en 1943 et va donc cautionner l'usage de la violence létale contre le nazisme. Cependant, pendant cette période, il a une profonde réflexion sur la violence durant cette période-là. Et je pense que c'est ce qui fait que, au sortir de la guerre, il va retrouver les antimilitaristes, hein, et les pacifistes comme Louis Lecoing. La ligne camusienne est là assez claire, c'est qu'il y a une nécessité de limiter la violence létale dans les luttes politiques pour construire une société de paix. S'il est proche de Louis Lecoing, donc il partage les combats, hein, comme vous venez de le rappeler, il est justement pour faire reconnaître un statut de l'objecteur de conscience, il ne l'est pas lui-même, à titre personnel. Hein. Il le dit à Lecoing, voilà, dans un fragment de lettre que je cite. Oui. C'est-à-dire qu'on voit bien ici sa conception aussi libertaire de l'exigence démocratique, pluraliste, hein, c'est-à-dire tolérant. La démocratie vraie, elle ne peut, pour lui, de manière autoritaire, écraser la conscience des antimilitaristes et les criminaliser. C'est-à-dire que pour lui, cette posture des gouvernements est autoritaire et conduit tout droit à l'indignité. C'est pour ça qu'il va se battre jusqu'à la fin de sa vie pour la reconnaissance de ce statut des objecteurs de conscience.
Et il y a un autre grand combat de Camus, c'est évidemment l'Espagne. D'ailleurs, on l'appelait, je crois, Camus l'Espagnol. Alors pourquoi cette passion pour l'Espagne et quelle est son action ?
Alors oui, Camus l'Espagnol, hein, c'est vrai que c'est une formule voilà, qu'on retrouve souvent. Alors déjà, Camus est proche de l'Espagne par ses origines.
Et oui.
Sa mère est originaire de Minorque.
Voilà.
Voilà, et à Alger, il va fréquenter la communauté espagnole voilà, durant son enfance. Ce qui est important aussi, je pense, de comprendre, c'est que dès 1935, Camus va écrire « Révolte dans les Asturies ». Avec des amis, hein. C'est une pièce qu'il va monter avec des amis, où il soutient la révolte des mineurs asturiens pour créer une république socialiste qui sera matée par le général Franco. Cet événement, c'est en quelque sorte le prélude direct de la guerre d'Espagne. Et tout au long de sa vie, il va continuer hein, à défendre cette république espagnole. Dans des textes de combat, hein, il refuse qu'on oublie l'Espagne au moment où, voilà, à Yalta, on se sépare le monde, et il continue à faire vivre la mémoire de l'Espagne républicaine. Il est très critique en 1952 quand l'Espagne franquiste rejoint l'UNESCO, Il propose sa démission de cette organisation. Il y a un texte très intéressant là-dessus sur Franco et justement promoteur de la culture, en expliquant que voilà, il y a vraiment une aberration. Et puis surtout, je pense, il y a cette proximité aussi avec Maria Cazares, dont le père Santiago Cazares Quiroga a été plusieurs fois ministre sous la République espagnole. Voilà, donc il y a vraiment un ancrage espagnol très fort de Camus. Hein. Il disait souvent que c'était sa seconde patrie. Et il va être très attentif au sort des réfugiés espagnols. Par exemple, fin 1949, avec Orwell, d'autres, Char, Siloney, il va vouloir leur venir en aide. Et puis 10 ans plus tard, il va faire la même chose dans Témoin, en voulant récolter des fonds avec un appel au soutien public et populaire.
Alors, il défend l'internationalisme, il revendique la décolonisation, il est très clairvoyant sur la lutte entre le FLN et les partisans de Messaliadj, notamment dans le texte sur l'élimination des syndicalistes.
Oui, c'est vrai que les positions internationalistes de Camus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont des positions aussi universalistes. C'est-à-dire que pour lui, la paix passe par la création d'une organisation internationale qui empêche les rivalités nationales et les impérialismes. C'est ce qu'il dit dans Ni victime ni bourreau, des éditoriaux qui paraissent dans Combat. Et il y a pour lui nécessité que les populations colonisées participent pleinement à cet ordre démocratique international. Mmh. Camus va critiquer très sévèrement le racisme colonial et va soutenir une décolonisation démocratique. De son expérience de la Seconde Guerre mondiale, va découler son refus du nationalisme, qui explique sa position à l'égard du FLN, une position aussi contre le nationalisme qu'il partage avec les libertaires. Il juge le FLN autoritaire, voire totalitaire, car il assassine certains syndicalistes messalistes, plusieurs même. Donc Camus, ici, on pourrait dire que sa position, l'idéal camusien sur l'Algérie, c'est vraiment celui d'une Algérie fédérale, même si cette position, au moment où il la soutient, est utopique. Elle est inspirée, je pense, par le fédéralisme proudhonien, par ce fédéralisme aussi européen qui émerge dans les années 44-45. Avant de mourir, Camus va soutenir l'autodétermination de l'Algérie, qui est proposée par De Gaulle à l'automne 1959. Il est question d'un vote démocratique qui intègre à la fois les populations arabes et européennes, et c'est celle qu'il soutient avant sa mort dans une lettre peu connue à son ami Nicolas Chiaramonte. Donc sur nombre de ces points autour de la décolonisation, Camus, je pense, rejoint les libertaires, dont la majorité redoute que la décolonisation ne voit finalement le surgissement de nouveaux maîtres autoritaires et finalement d'une élite autocratique nationaliste. Mmh. Donc là, il a des proximités de vue. Il est important aussi de rappeler que la Révolution prolétarienne, cette revue, était amie avec Messaliadj, qu'elle lui donne parole et qu'elle va le défendre au moment justement où il est attaqué, notamment par le FLN et puis également par Francis Janson dans son texte « L'Algérie hors la loi
». Et alors, Camus, la pensée de Camus, elle est dense, elle est complexe, et deux mots sur son expérience du journalisme. Il a des difficultés à intégrer le journalisme qui lui exige rapidité et parfois simplification. Il le dit d'ailleurs, il ne garde pas forcément un bon souvenir de cet aspect-là de Combat.
Alors, c'est vrai que je pense que Camus a aimé le journalisme, mais ce qu'il aimait avant tout, je pense, c'était vraiment l'esprit d'équipe, la camaraderie. Avec les typographes, avec le comité de rédaction. C'est vraiment ce qui ressort. Voilà. Et ce qu'il va aussi aimer au théâtre. Voilà. Il va retrouver cet esprit de camaraderie, d'équipe au théâtre. Il écrivait que le journaliste était l'historien du présent. Camus met vraiment en application cette éthique journalistique par sa liberté, son honnêteté, sa droiture, son sens de la vérité. Mais il n'empêche que le journalisme est pour Camus un travail harassant, qui tendait à prendre le pas, finalement, sur la création littéraire. Oui. Je pense que c'est l'une des raisons qui vont le conduire à arrêter Combat, en plus des désaccords de ligne. Le travail d'artiste comptait pour lui plus que tout, car il pouvait s'y livrer, s'y inventer plus librement. Ce qui lui pesait aussi, je pense, que c'était les polémiques constantes qui sont attachés au journalisme, qui l'ennuyaient, qui lui prenaient son énergie. Hein. Il ne faut pas oublier que Camus, voilà, après la polémique de l'homme révolté en 1952 avec Jean-Paul Sartre, oui, va connaître un épisode de dépression assez important qui va lui enlever finalement aussi une partie de ses forces. Mmh. D'où voilà, aussi les textes journalistiques qui sont moindres, en tout cas la participation, l'engagement dans un journal qui va reculer. Il va revenir ensuite dans l'Express, mais pour un temps très court.
Oui, un temps très court. Oui. Et toute sa vie, vous parliez des typos et du monde du livre, toute sa vie, il va garder cette proximité avec le monde des ouvriers, notamment ceux du livre, hein, de la presse, et malgré les honneurs, et malgré le Nobel. Je ne sais plus qui l'écrit dans le livre, il est des nôtres, et c'est un prolétaire qui l'exprime, ce n'est pas un intello, hein, c'est important ça.
Exactement, je pense qu'il y a vraiment une grande proximité de Camus avec le monde ouvrier, toute sa vie, malgré ce que lui dira Sartre justement lors de leur polémique, où il dit « vous n'êtes plus pauvre », Sartre lui dit ça. Je pense que Camus a vraiment une fidélité à ce monde, oui, qui est une fidélité aussi à sa mère, hein, d'accord, qui faisait des ménages, mais aussi à son oncle Étienne, qui était tonnelier. Donc il a une expérience finalement concrète, hein, de ce que c'est ce monde prolétaire. La fréquentation du monde ouvrier et cette reconnaissance par ce monde-là, on peut vraiment en avoir un aperçu dans l'hommage qui est présent dans le livre de ses camarades du livre. Hein, oui. Le texte s'appelle « Camus au marbre », qui va être publié dans
Camus
Témoins
au marbre.
Il va continuer, enfin, dans
ses témoignages. On peut rappeler qu'est-ce que c'est que le marbre ?
Alors le marbre, c'est vraiment cet endroit où on fabrique le journal. Hein,
voilà.
C'est ce lieu-là où on a les presses, l'odeur de l'encre. Camus aime aussi en parler.
Oui, il aimait vrai que ça, hein, ce moment-là.
Il aimait ce moment-là. C'est quelqu'un qui, voilà, ne se contentait pas de faire le comité de direction du journal, qui ensuite restait jusqu'à la publication effective, donc tard dans la nuit. Et c'est vrai que ses liens avec ses camarades du livre, il va les garder, même après le Nobel, il garde sa simplicité. Les témoignages qu'on a dans le volume en parlent, malgré un emploi du temps qui est devenu très chargé. C'est vrai que Camus, avec sa célébrité, sa notoriété, va courir de plus en plus après le temps. Mais il va toujours prendre le temps, par exemple en 57, pour participer à une causerie, à l'initiative de son ami Lazarevitch, une causerie avec justement le monde des correcteurs. Camus, je pense que c'est très important, et en ça il est très proche de Simone Veil, il refusait de dissocier le travail intellectuel et le travail manuel. C'est-à-dire que pour lui, ces deux travaux font partie d'une même réalisation humanisante, celle de la création. Il voit la création comme quelque chose de totalisant. Il y a une solidarité essentielle qu'il défend aussi dans certains textes entre le travailleur et l'artiste intellectuel.
Oui, et ça on le retrouve chez Proudhon. L'atelier et le bureau, l'établi et le bureau, on le retrouve aussi au moment de la Commune de Paris avec la volonté des communards d'allier travail manuel et travail intellectuel. Oui, donc il est, et puis bon, la Commune de Paris, il en parle dans L'homme révolté. Oui, ça, je crois que c'est vraiment très, 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 très important. Alors, avant de rappeler les références du livre, Alexis, avez-vous d'autres projets autour de Camus, bon, par l'intermédiaire de votre société ou vous-même, une autre publication ?
Alors, il est vrai que j'ai publié l'an dernier aux éditions Le Passeur un roman qui imagine la rencontre entre Camus et George Orwell, qui est intitulé Le songe des esprits libres. Donc, ouais. C'est un travail qui m'a pris plusieurs années et voilà, j'en suis venu à bout. Le projet de cette année,
il est sorti chez qui ce livre ?
Alors aux éditions Le Passeur.
Très bien, en 2025.
Voilà, donc, ouais, ça peut intéresser. Et puis le projet vraiment de cette année, c'est la co-direction avec Anne Proto, la présidente de la Société des études camusiennes, d'un colloque consacré à la peste qui va avoir lieu à Angers les 1er et 2 avril 2027 pour fêter les 80 ans du roman. C'est vrai que la peste est un roman puissant, la pandémie l'a remis sur le devant de la scène, donc on voulait faire quelque chose autour de ce roman. À titre individuel, j'ai continué finalement à travailler sur Camus et Orwell puisque j'aimerais mettre vraiment en parallèle La peste et 1984 d'Orwell. Ça me permet de poursuivre sous le format de la communication universitaire, bah des thèmes que j'ai déjà commencé à travailler sur le plan romanesque. Ça permet d'aller plus loin, notamment en creusant cette question de la décence commune chez Rouelle, qui était aussi, lui, proche des anarchistes.
Oui, voilà. Oui, tout à fait.
Notamment son ami Woodcock.
Oui, hommage à la Catalogne, notamment. Bon, enfin,
exactement.
Oui, voilà, donc on aura le plaisir de vous réinviter à l'écrit. Hein,
c'est très gentil.
En tout cas, merci pour cet échange. Et j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à découvrir ce livre passionnant, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais c'est un passage, c'est un aspect de la pensée de Camus, de l'action de Camus qui est un peu occulté, hein, faut quand même bien le dire. Nous n'avons pas tout abordé, notamment l'action et les prises de position de Camus par rapport à Budapest en 1956, mais vraiment, à lire, à vous de lire donc Albert Camus, Les écrits libertaires 1948-1960, aux éditions Les Belles Lettres. Merci Alexis.
Merci beaucoup.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Comme prévu et comme l'avait annoncé Francis, et vous êtes toujours bien sûr sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et c'est toujours l'émission Au fil des pages. Et là, cette semaine, pour cette émission, je vais vous présenter un livre que j'ai un peu trouvé par hasard, mais le hasard faisant bien les choses, son titre du livre « L'Espagne rouge ». Alors, excusez-moi, le prénom est un petit peu compliqué, c'est un prénom polonais. Excusez-moi s'il y a des auditeurs et des auditrices polonaises. Ksawery Prudzenski. Alors, je vous lis, je présente un livre que tout du moins peu connu, un livre écrit à l'époque de la Révolution espagnole. Au tout début de la Révolution, juste quelques semaines après le début de celle-ci. C'est Prudzenski qui va nous raconter cela tout au long de ce livre. Mais qui est Ksawery Prudzenski? C'est un grand reporter de son époque, c'est-à-dire dans les années 1930. Il écrit principalement pour des journaux polonais, ce qui se comprend, des journaux qui ne sont ni de gauche, ni révolutionnaires. Lui-même n'est pas de gauche, ni révolutionnaire, ni anarchiste. Mais il est ouvert d'esprit et avait choisi de couvrir la Révolution du côté de l'Espagne révolutionnaire et non pas du côté franquiste. Par la suite, il combattra le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce livre n'est pas vraiment parlé, un reportage ni un recueil d'articles de presse, mais un récit de voyage, des choses vues, des impressions de Prudzenski. On suit l'auteur. Déjà, il faut parvenir à entrer en Espagne, en provenant de la France par le train. Ce n'est pas si facile ni évident. On n'entre pas dans un pays en révolution comme ça, uniquement parce qu'on le veut. Vous lirez pourquoi. Il parvient néanmoins à entrer en Espagne, destination Madrid en 1936. Il faut se loger, trouver un hôtel. C'est pareil, ce n'est pas évident. Parfois on partage sa chambre avec un inconnu. Puis il faut un billet de logement. La révolution n'est nullement désorganisée. Certaines ressources sont rares, il ne faut pas les gaspiller, donc il faut les obtenir avec des bons, des autorisations pour les utiliser, comme par exemple les automobiles et le carburant. Madrid est révolutionnaire, des affiches le rappellent, Les immeubles réquisitionnés, sièges de différentes organisations, partis, syndicats, affichent leurs sigles, en gros. Des milices révolutionnaires patrouillent, vérifient les identités, se méfient. C'est la guerre, on redoute les espions, les saboteurs. Les routes sont surveillées, des barrages pour contrôler les allées et venues sont là un peu au hasard, des chemins, des routes. Des contrôles qui durent longtemps, pendant lesquels la suspicion et la tension nerveuse règnent. Krudzinski rencontrera beaucoup de monde, des tendances politiques aussi bien marxistes, anarchistes, syndicalistes, socialistes, d'autres journalistes aussi, quelques diplomates. Le livre aurait bien pu s'appeler « Espagne rouge et noire » aussi, parce que l'auteur parle longuement des anarchistes et de la CNT, mais pas que. Mais il en parle. L'auteur va aussi sur le front et prend des risques. Les balles sifflent à ses oreilles. Les avions franquistes volent au-dessus de lui et lâchent des bombes. Il y a des destructions, des mortes, des morts, beaucoup, des exécutions. Les églises sont détruites ou servent d'entrepôt. On partage en quelque sorte le quotidien de Krudzinski. Une rumeur sur la mort de Durruti ? Néanmoins, il y a quelques lignes qui en parlent dans ce livre. Alors comment savoir si c'est vrai ou faux ? Une analyse précoce d'un reporter américain qu'il faut absolument lire, parce qu'il avait vu juste avant tout le monde sur le sort de la Révolution. Le hasard ou de la clairvoyance ? Allez savoir. Ce livre parle de la période de 1936-1937. Vous aurez une vision très précise du début de la Révolution au niveau des gens de tous les jours. Ce n'est pas un livre de plus, comme on dit, de façon péjorative, mais un livre qui complète de façon plus qu'intéressante les autres bons livres sur ce passage de l'histoire de l'Espagne révolutionnaire. En espérant que ce livre sorte de l'ombre et vienne compléter les lectures sur la Révolution espagnole. Je vous recommande vivement ce livre, alors je vous redonne les références, le titre « Espagne rouge » de Xaveri, Krudzinski, chez Libretto, en 2024. Et là, maintenant, nous allons retrouver Dominique avec une intervention sur un livre qui s'appelle « Toutes les époques sont dégueulasses » de Laure Murat. Laissons la place à Dominique.
Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un livre de Laure Murat, « Toutes les époques sont dégueulasses » chez Verdier, 2025.
Alors, qui est Laure Murat ?
Alors, elle est née en 1967 à Neuilly-sur-Seine. C'est une historienne française, professeure à l'Université de Californie à Los Angeles. Elle, c'est une héritière de la famille du prince Murat et de la famille de Luynes, donc grande famille. Alors, elle déclare en 2023 « Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, je vis avec une femme, je suis professeure d'université aux États-Unis, je vote à gauche et je suis féministe ». Alors, mais en novembre 2024, au lendemain de l'élection de Donald Trump, elle déclare sur France Inter qu'elle va quitter les États-Unis. Elle l'a fait. Alors, elle s'intéresse à plusieurs sujets, l'histoire de la psychiatrie en France, l'histoire culturelle, notamment la littérature. Moi, j'ai bien aimé, elle avait écrit un livre sur Proust, qui s'appelait Proust, roman familial, puisque Proust était reçu dans sa famille. Donc, elle a eu des échos. Hein. Et elle écrit beaucoup aussi sur les questions de genre et de sexualité.
Elle va publier en 2003 un livre intéressant, là, Adrienne Monnier.
Ah oui, Passage de l'Odéon, oui.
Hein, c'est, oui. Voilà, tout à fait, ça oui. c'était bien ça.
Oui.
Et puis, quel est son dernier ouvrage ?
Alors, c'est un petit ouvrage de 66 pages, presque un pamphlet. Le titre, quelque peu provocateur, provient d'une phrase d'Antonin Artaud qui faisait plus allusion à son état général. Hein, toutes les époques sont dégueulasses. Laure Murat reprend ce titre pour démontrer que chaque époque a connu des mœurs et des comportements qui ne sont plus admissibles aujourd'hui. Mais rien ne justifie que l'on réécrive ces œuvres controversées.
Eh oui, hein, et dès le début, elle distingue l'acte de réécrire et de réécrire.
Oui. Réécrire est l'action qui consiste à réinventer à partir d'un texte existant une forme nouvelle, bon, comme les traductions, les adaptations cinématographiques. Il peut aussi s'agir de mettre aux normes orthographiques un texte ancien qui, sans cela, risquerait de rebuter un lecteur moderne.
Oui, bah, je pense par exemple à des textes du Moyen-Âge,
oui,
Rabelais, oui. Quand même très compliqué.
Oui. Oui. Réécrire est un remaniement d'un texte afin de la mettre aux normes d'aujourd'hui. La réécriture relève de l'art et de l'acte créateur. La réécriture, c'est de la correction et de l'altération.
Et donc là, c'est une atteinte
au droit d'auteur.
Au texte, au droit d'auteur. Oui, oui. Exactement. Hein. Alors, donc il y a une problématique qui est posée dès l'incipit.
Oui, faut-il réécrire les classiques de la littérature? Doit-on réécrire nos livres pour ne pas offenser les sensibilités? Faut-il adapter les classiques à leur époque? Réécriture de romans, une histoire ancienne?
Oui, oui, ça c'est des questions importantes, oui. Hein, qui ont toute leur place dans notre émission. Oui. Alors, elle prend quatre exemples principaux, je crois.
Oui, alors elle prend Roald Dahl et la protection de l'enfance. Bon, parce que des fois, il qualifie d'enfant de gros lard, de tas de bêtises. Bon, il avait aussi un petit penchant antisémite. Ian Fleming avec son James Bond sexiste et sa masculinité. Ouais. Agatha Christie...
Bon, entre nous, d'ailleurs, le James Bond et la masculinité, c'est peut-être encore accentué par les films qui en ont rajouté une couche.
Oui, oui, hein. Bon, oui. Et puis, il a évolué.
Oui, tout à fait. Enfin, aujourd'hui, c'est plus... C'est...
Alors, Agatha Christie et son racisme.
Oui, alors ça, les petits nègres, là, voilà.
Tintin au Congo aussi, et le racisme.
Là aussi, racisme, oui.
Alors donc, les éditeurs traquent les mots nègre, gros, le nez trop busqué d'une sorcière. Bon, parce que ça signifie c'est des termes offensants. Alors, pour elle, pour Laure Murat, c'est rendre illisible le contexte historique dans lequel il a été produit. Oui. Changer le titre des 10 petits nègres ne change rien au contenu. Une pensée antisémite, raciste, xénophobe ou homophobe ne se gérera jamais contenue dans un seul mot. Ouais. À ce compte-là, on peut passer tous les auteurs au crible. Mmh. Rappelons que Voltaire était antisémite et anti-musulman. J'ai récemment présenté Jack London, je ne sais pas si tu te souviens.
Ça y est,
il y avait quelques clichés aussi racistes. Très récemment, une université américaine veut interdire certains passages du Banquet de Platon sous prétexte que le livre est un appel à l'homosexualité et à la pédophilie.
Je ne sais pas trop ce qu'on va garder dans cette affaire.
Oui.
Quelles sont les raisons de ces réécritures?
Oui, alors elles sont financières et morales. Ah. Selon Laure Murat, la bienséance n'est pas le motif réel pour la réécriture. Il s'agit essentiellement d'une affaire de gros sous. Alors elle dit, c'est exclusivement pour conserver leur valeur lucrative que les éditeurs ont procédé à ces nettoyages approximatifs avant que les héros canoniques comme Miss Marple ou James Bond, notoirement racistes et sexistes, ne deviennent...
Miss Marple aussi ?
Oui.
Ah bon ? Alors, d'accord. Bon.
Complètement ringard. Et ce n'est évidemment pas un hasard si les œuvres de Roald Dahl ont été réécrites juste avant la vente massive des droits à Netflix. Ah. De plus, c'est totalement absurde de prétendre protéger les enfants contre la férocité de Roald Dahl ou de l'Europe. Pareil, elle fait une comparaison aussi avec les tableaux, l'origine du monde de Courbet. Alors qu'on les livre en pâture à la nullité confondante de la télévision, à la violence de la pornographie sur Internet et des vidéos de décapitation sur Facebook. Le puritanisme américain est aussi l'une des causes. Toute cette soupe qu'on nous sert sur toutes les radios.
C'est une citation.
Alors, elle accuse donc l'économie néolibérale. L'erreur fatale de la gauche, elle accuse aussi la gauche, bien intentionnée et authentiquement antiraciste, et de tomber dans ce piège pervers qui voudrait faire passer pour des améliorations, voire une modernisation de la lecture, de vulgaires trucages intéressés motivés par l'appât du gain.
Ouais. Alors, que faut-il faire, selon elle?
Alors, il faut tout d'abord respecter l'auteur. Lui seul a le droit de modifier son œuvre. Le droit d'auteur, dans sa partie morale, est imprescriptible. Oui à la réécriture. Bon, comme on a cité tout à l'heure, Racine s'inspirant de Ripide. Non à la réécriture. Éliminer des mots jugés insultants ne modifie pas l'idéologie, ça on l'a déjà dit. Ouais. Il faut contextualiser à la lumière des préoccupations actuelles, avec des notes de bas de page, avec une préface, voire une postface. Laure Murat cite une conversation entre Roald Dahl et François Bacon, enregistrée en 82, où l'auteur prévient ses éditeurs que s'il s'avisait de changer la moindre virgule après sa mort, il est mort en 1990, le tout-puissant Thor les frapperait très fort sur la tête avec son Mjolnir. Ou bien
un marteau. Thor et son marteau.
Voilà, Ou bien j'enverrai l'énorme crocodile pour les engloutir. Alors on peut aussi, c'est dans l'éducation, proposer une progression pédagogique aux étudiants et les faire réfléchir. Bref, il faut expliquer, historiciser, déconstruire, réfléchir, inventer.
Et alors, elle aborde aussi la question des sensitive reader.
Oui, alors elle aborde cette polémique. En 2023, un auteur, Kev Lambert, a déclaré avoir fait appel à une poétesse et professeure de littérature haïtienne, spécialisé dans ce domaine, pour éviter les stéréotypes, car il a créé un personnage haïtien, noir. Bon, alors, ça a fait grand bruit. Nicolas Mathieu a condamné violemment le procédé.
Ah. Et puis, on peut voir un dernier livre,
oui,
peut-être.
On voit que ça, c'est un sujet quand même qui agite, hein, l'édition. Mm-hmm. Tiphaine Samoyot, Toutes sortes de misérables, au seuil, collection fiction et compagnie, 2025. Alors là, c'est un gros livre, hein, 227 pages.
Oh, quand même.
Non, mais par rapport à leur Murat.
D'accord, oui, d'accord.
Alors, elle se rappelle qu'elle a commencé à aimer la littérature en découvrant les grands classiques dans des éditions pour enfants, dans des versions adaptées. Elle souligne aussi l'influence inévitable de l'idéologie dominante dans des adaptations scolaires. Par exemple, le Tour de France par deux enfants en 1877, qui comprenait des références religieuses gommées dans la version de 1906.
Ah oui, après la séparation des églises et de l'État.
Oui. Alors, elle est un peu plus favorable aux réécritures pour pérenniser la lisibilité d'un texte. Sachant qu'un livre s'adresse à un public à géométrie variable, il n'en va pas de même de l'état de la langue, qui peut constituer un véritable barrage. Montaigne en était conscient, qui craignait de ne plus être compris quelques décennies après lui. Alors, sa réécriture en français est la condition aujourd'hui indispensable.
Complètement, parce que quand on lit les essais de Montaigne, c'est quand même un peu compliqué.
Oui.
Il y a des formules, bon, puis Rabelais, ce que tu évoquais aussi. Hein.
Alors, elle donne aussi d'autres exemples d'œuvres contestées, comme La Belle et la Bête ou La Belle au bois dormant, qui ne respectent pas le consentement féminin. Mais, bon, faut-il réécrire pour autant, hein. Bref, je vous ai dit, un sujet qui inquiète... tout autant qu'un nouveau sujet qui se profile, l'introduction de l'intelligence artificielle dans la création littéraire.
Tout à fait.
Qui facilitera peut-être les réécritures.
Et bien voilà, chers amis, on est un peu... Non, on n'est même pas ric-rac, tout va bien. J'espère que ces ouvrages nourriront votre réflexion, votre action au cours de cette année. Il ne s'agit pas de dire qu'on est d'accord avec tout, hein, mais c'est, on apporte. Hein, c'est toujours le goût de la découverte, comme je le dis souvent. Et c'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages sur Radio Libertaire. N'oubliez pas de consulter aussi la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Nous avons évoqué cet été des ouvrages consacrés au communalisme, à l'immigration, à la jacquerie de 1358. Vous verrez, c'est tout un programme. Et puis, d'ici là, bonne lecture. Mais on se retrouve le mercredi 23 septembre 2026 avec Anne de Comines. Anne de Comines qui est poète, qui exerce un métier de prête-plume, c'est quand même mieux que l'expression antérieure. Et puis, ça correspond très bien à la manière dont elle va nous expliquer les choses. N'oubliez pas que c'est une émission consacrée aux acteurs de la chaîne du livre et donc ceux qui aident à écrire, à produire des livres, ont toute leur place chez nous. D'ici là, bonne lecture. Et l'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire, vous souhaite ni Dieu ni maître, un bel idéal de vie. À bientôt et au plaisir de partager.
Bonjour, je vais vous présenter. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui.
Ça marche pas ?
Putain. Bon, fais chier, quoi.
balance, compagnon, comme une tringle dans le vent. Et le maroufle que l'on pend se fout pas mal de tes chansons. Tu peux toujours t'en mitoufler pour la saison chez Gallimard. Tu sais qu'avec ou sans guitare, on finit toujours sur les quais. La poésie fout le cambion. Y'a que du néant sous du néon. Mais tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos.
Femme libre.
Femme qui se libère.
Femme qui prenne la parole.
Femme qui témoigne.
Femme qui crée.
Femme qui se révolte.
Femme qui lutte.
C'est Femme libre
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble, ensemble libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Ces femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, 27e, je crois que c'est la 27e ou la 28e émission, bon, je ne sais plus, en tout cas de cette année 2026, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. Et Sylvie est aux manettes. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et Marie-Jo est déjà là pour sa tribune. Bonsoir Marie-Jo.
Bonsoir à toutes.
Alors au programme de ce soir, 4 temps. La tribune libre, le football, un monde masculiniste. Les journées du matrimoine avec des rendez-vous les 19 et 20 septembre prochains. Et puis un enregistrement venant des réclusiennes avec Lorlane Lemarier. Parce que se battre, ce n'est pas seulement une affaire de droit, c'est aussi une affaire de vie. Voilà. Et à la fin, nous aurons quelques infos et des communiqués, des rendez-vous. Alors, on va démarrer avec la tribune libre, le football, un monde masculiniste.
Six,
année de la Coupe mondiale de football aux États-Unis de Trump. Le soccer, mot américain du football, très pratiqué là-bas, notamment par les femmes, n'a pas cependant la même popularité que le football américain, qui a d'autres règles, ou encore le baseball. Par contre, il est international dans ce qu'il a de virilisme, d'entre-soi masculin, dans son incapacité à s'ouvrir plus vite aux femmes, à promouvoir des valeurs de combat, d'individualisme, de faire de l'argent à tout prix, au détriment du sport populaire pratiqué sur tous les continents.